dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 13. « Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Il leur imposa les mains et partit de là. » Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 13. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Voilà trois textes qui nous parlent du même événement. Les trois, ce qu'on appelle les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, qui sont trois évangiles qui, dans le même ordre, racontent le récit de la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut juste vérifier, Corinne, que l'enceinte pour les mamans est bien allumée et fonctionne ? Parce que j'aimerais bien que... Je ne comprends pas. Mais pour la maman qui, peut-être pour Mewen, si elle est avec sa petite fille, qu'elle puisse entendre le message si elle le souhaite. C'est important, j'ai prévu cela pour elle aussi. Donc voilà. Trois récits qui parlent du même événement. On peut se dire, oui, bon, alors on va subir puisque je n'ai pas d'enfant, ou qu'ils sont grands et qu'ils ne sont pas là, ou que je n'en ai pas encore, ou que... Mais est-ce que vous n'êtes pas l'enfant de quelqu'un ? Chacun pour votre part. Pour ma part, avant le culte avec Rémi, on parlait de ce que nous sommes aujourd'hui et qui résulte de ce que nous avons été et vécu en tant qu'enfants. Avez-vous été enfant ? Non, non, vous êtes venu spontanément à l'âge adulte. Comme ça ? C'est ça ? Non ? C'est un récit qui parle d'une relation et de la place que Dieu donne aux enfants. Mais pas seulement. Il dit aussi que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des enfants. Alors on va balayer un peu ces choses-là, donc on va avoir un temps de bénédiction et de présentation d'un enfant, mais se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un temps de bénédiction pour l'enfant que vous êtes et que je suis ? Les Écritures parlent souvent de la notion de famille et de la relation dans cette famille qui illustre la relation entre moi et mon Dieu, entre moi et mon Père. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier comme dans le peuple d'Israël, on prie Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu est un. Tous les jours, cette prière montait des hommes vers le ciel. Mais c'était une prière qui disait, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, au milieu de toi, le Seigneur est un. C'est-à-dire une prière qui parlait de Dieu par rapport aux hommes. Apprends-nous à prier. Si vous voulez prier, dit Jésus à ses disciples, dites notre Père qui es aux cieux. Et là, il propose une prière qui est une prière qui monte et non pas une prière qui descend. Et le premier mot qui est dit, c'est notre Père. Ça veut dire que Jésus utilise à nouveau l'image de la famille pour parler de la relation de l'homme avec son Dieu. Ah, une présentation d'enfant, ça fait partie de la vie de l'Église, aussi comme un temps particulier où on se centre sur l'ordre que Dieu donne dans l'Église, et notamment par rapport à la famille. Moi, par rapport à mon père et à ma mère, où en suis-je? Moi, par rapport à mon enfant, où en suis-je en tant que père, en tant que mère, en tant que beau-père? C'est un ordre aussi, c'est une place. En tant que maman, en tant que grand-parent, dans cet ordre familial, quelle est la place de Dieu? Dans le Nouveau, comme dans l'Ancien Testament, il est parlé du respect mutuel entre les différents membres de la famille. L'amour qui est attendu et espéré. Dans ce récit, il est parlé de ces enfants qui viennent. Alors nous allons prendre un temps de bénédiction par rapport à Laëlia. Laëlia, je mets dans le bon ordre. Un temps de bénédiction. Ce temps de bénédiction, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un temps de baptême. Je sais qu'il y a quelques mois, quand Mewen est venue me voir, elle m'a dit « mais j'aimerais qu'il y ait un temps ». Alors, elle ne savait pas quel mot mettre à ce temps-là, mais elle avait à cœur, c'était au printemps dernier, je crois, j'ai à cœur de que Dieu soit présent et bénisse cet enfant-là qui est là, qui a maintenant 2 ans. Donc, j'ai dit au téléphone, il est temps de faire la présentation, sinon je vais être amené à faire sa bénédiction de mariage avant de faire la présentation. Donc, on va faire ce temps de bénédiction. Et c'est vrai que Mewen et Yann ont à cœur de vivre avec le Seigneur. Ils vivent aussi des temps dans une autre communauté, mais ils avaient à cœur voilà, que ça se fasse dans l'église de Fanny, là aussi, et puis là où ils ont aussi fait quelques pas et marché avec le Seigneur. Ce n'est pas un baptême. Ce que nous allons vivre, ce n'est pas un temps qui fait rentrer le salut ou qui manifeste le salut dans la vie de Laëlia. C'est un temps de bénédiction. Laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il est dit que dans l'évangile de Luc, entre autres, mais aussi celui de Marc, le verbe qui est utilisé, enagkalizomai, c'est prendre dans ses bras et embrasser. C'est un véritable acte de tendresse. Jésus a accueilli ses enfants que les disciples disaient, mais mettez-les de côté, vous savez, il n'y a pas besoin de déranger le maître. Il faut savoir qu'en grec et en hébreu, le mot pour enfant, c'est un mot qui est en dessous, dans l'ordre social, de serviteurs et d'esclaves. Dans la société juive et grecque, l'enfant, il était en dessous du serviteur et de l'esclave. Il avait moins de droits. Alors vous pensez bien, les disciples se disaient, mais bon, ouais, oh, ce ne sont que des enfants. En fait, Jésus a dit, mais je vais changer l'ordre des choses. Et ceux qui ont des enfants, c'est-à-dire qui sont les moins considérés et pris en compte dans la société grecque ou juive, eh bien, je les mets à la première place parce que ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu devront leur ressembler. Alors, quand on va bénir cet enfant, la question se pose, c'est est-ce que, en tant qu'enfant devant mon père, je veux être béni de la même manière? En fait, l'acte de bénir, c'est quelque chose d'essentiel. À chaque fois que je pense à cet acte, en hébreu, c'est la baraka. Et je pense toujours à Jean-Jacques. Jean-Jacques, qui était un ancien un travailleur du PMU. Il est retraité du PMU. Il a fait sa carrière dedans. Et il me disait, il y a de nombreuses années, ouais, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont la baraka. La baraka, vous avez déjà entendu ce terme ? Hein ? Baraka, avoir la baraka, c'est avoir la bénédiction. C'est le terme hébreu, bénédiction. En fait, vouloir bénir, c'est vouloir du bien à l'autre. Est-ce que nous voulons du bien pour Laëlia ? Est-ce que nous voulons que le bien voulu par Dieu sur cet enfant soit manifesté ? Est-ce que les parents, Mewen et Yann, les grands-parents, Fanny et Denis, veulent du bien à cet enfant ? J'en ai aucun doute. J'ai aucun doute qu'ils veuillent du bien. Est-ce que l'Église, qu'elle soit ici ou ailleurs, veut du bien pour cet enfant dans les années qui viennent ? Alors, si nous voulons du bien pour elle, nous allons prier pour elle. Mais est-ce que je pense que Dieu me veut du bien ? Est-ce que mon Père me veut du bien ? Moi, si je fais référence à mon Père terrestre, moi j'en ai eu deux. Un qui m'a donné la vie, qui m'a élevé jusqu'à un an, et un autre qui m'a aimé tout le restant de sa vie, ou toute ma vie, sur cette terre. Je ne doute pas que les deux m'aient voulu du bien. Mais ils sont loin d'avoir été parfaits. Comme moi, je ne suis pas très parfait en tant que père. Mais ils m'ont voulu du bien. Ça, je le sais. Est-ce que je crois que mon Père céleste veut me bénir et me veut du bien ? Dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle dans le premier mois quasiment de la vie d'un enfant, les parents amènent l'enfant et il y a ce qu'on appelle la présentation de l'enfant à la Torah. La Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible, c'est les cinq grands rouleaux, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais dans le premier mois de sa vie, on présente l'enfant dans la synagogue à la Torah. C'est une manière de dire, nous désirons profondément que cet enfant-là puisse avoir dans les années qui viennent un rapport à la parole de Dieu qui soit riche, que cette parole de Dieu prenne toute sa place dans sa vie. Et c'est vrai que si vous lisez le Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est une parole de Dieu qui parle de la manière dont Dieu veut aimer son peuple. Mais il y a des passages qui sont très compliqués, hein, je ne vous cache pas. À une patiente qui, il y a quelques années, me disait, en rentrant au centre où je travaillais, « Je veux, pendant mon séjour, lire la Bible tout entière. » Je lui demandais, « Mais comment allez-vous faire ?» Elle m'a dit, « Bah, de Genèse jusqu'à Apocalypse. » Et je lui disais, « Vous allez vous prendre le Lévitique de plein front, comme un camion peut prendre un mur. » Parce que traverser le Lévitique, c'est pas simple. L'enfant a été présenté à la Torah et nous, aujourd'hui, la question se pose, c'est est-ce qu'en tant que parents, nous allons avoir le désir, en tant que parents, de faire que la parole de Dieu prenne sa place dans sa vie afin qu'au moment où elle sera en âge de décider, elle puisse dire « Je désire que cette parole qui est vivante, prenne toute sa place et que celui qui est annoncé, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, devienne une bonne nouvelle pour moi de la part du Père. » Est-ce que c'est cela que je vais vouloir en termes de bénédiction ? Ma fille m'a envoyé une petite vidéo de ma petite fille de 5 ans qu'elle a pris en catimini 5 ans. Parce que parfois, elle les filme à leur insu. C'est pas juste, hein, c'est pas bien. Hein. Et puis, elle nous envoie des petites vidéos. Et dans cette vidéo qui date d'il y a 15 jours, il y a ma petite fille qui a les mains jointes, 5 ans, qui marche dans sa chambre et qui parle à Dieu. Et là, elle est là, personne ne la voit, en tout cas elle ne le soupçonne pas, elle est dans sa chambre et elle prie. Wow. Et en fait, sa mère lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, je prie. Mais pourquoi tu pries ? Et elle dit, je prie pour ma petite sœur. Est-ce que bénir la Eliyahu, c'est vouloir la présenter, un peu comme les Juifs le font au moment de la présentation à la Torah, pour dire que mon enfant puisse rencontrer son Dieu et que la parole de Dieu puisse prendre toute sa place dans sa vie et s'ouvre sous l'action du Saint-Esprit afin qu'elle connaisse Jésus-Christ. Au mariage de mon fils, il m'a dit des choses pleines de tendresse d'un fils à son père. On était en plein milieu de la piste de danse, après, en fin de soirée, et il m'a dit tout ce que j'étais pour lui. Et puis, à un moment donné, il m'a posé la question. Il me dit, mais et toi, qu'est-ce que ça t'a fait d'être père? Il était au soir de son mariage, il se dit, ça arrive, maintenant il a 4 enfants. Il me dit, mais qu'est-ce que ça t'a fait? Je dis, ça a été terrible. À la fois autant de joie que de crainte. Ah bon, pourquoi de la crainte? Et j'ai dit à mon fils, voilà, en fonction des années qui sont devant moi, je te connaîtrai 30, 40, peut-être 50 ans. Mais quand je t'ai tenu dans mes bras, ma pensée, c'est je veux le connaître pour l'éternité. Je veux que le salut rentre dans sa vie. Est-ce qu'en tant que parent, vous souhaitez non seulement passer ce temps sur cette terre avec votre enfant, mais aussi faire que le salut entrant dans sa vie, vous puissiez partager son éternité avec Christ? Alors, les trois textes que nous avons lus parlent de l'enfant. N'empêchez pas ces enfants de s'approcher de moi, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. J'inverse les choses dans votre société où l'enfant est moins qu'un esclave ou un serviteur. Un serviteur, ça rapporte. Mais un enfant, avant qu'il ne travaille, j'inverse les choses. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, soyez comme cet enfant. Alors, soyez comme cet enfant parce que un enfant, c'est malléable. Un enfant repose sur le concept de la confiance. Vous avez là une enfant qui est dans les bras de sa maman et qui n'a aucune peur, aucune crainte. Elle n'a pas peur que sa maman la fasse tomber par terre. Elle n'a pas peur que sa maman lui fasse du mal, là, maintenant. Non, elle est en confiance. Le royaume de Dieu est semblable à ceux qui leur ressemblent. Andrew Murray mettait en avant une notion qui me semble être une des notions principales de l'enfance. C'est la notion d'humilité. C'est-à-dire que l'enfant est prêt à recevoir de l'autre. Parce que l'enfant sait qu'il ne sait pas. Nous sommes tellement pleins et sûrs de nous-mêmes que finalement, eh bien, Dieu ne peut pas rentrer dans quelque chose qui est déjà plein. Plein de soi, plein de son orgueil, plein de ses interrogations, de ses doutes, plein aussi de ses certitudes. Ouais. Mais l'enfant est dans une position d'humilité, et Andrew Murray disait que l'humilité, c'était la beauté de la sainteté. J'aime beaucoup cette formule. C'est un titre de livre qui est le commentaire de l'Épître aux Hébreux. L'enfant, c'est le modèle pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut accepter de poser nos valises de culpabilité, accepter d'être pardonné, de vivre dans la grâce et de croire qu'on peut à tout instant vivre une vie nouvelle tournée vers l'avenir. Un enfant, il est tout entier tourné vers l'avenir. Amen. Nous allons bénir cet enfant parce qu'il y a en elle un avenir et que nous souhaitons que cet avenir comprenne le salut de Jésus-Christ dans sa vie. Pouvons-nous être devant Dieu comme face à un maître? Pouvons-nous penser qu'un enfant, face à ses parents, à Yann et à Mewen, puisse se dire « c'est eux qui vont m'apprendre ». Ils vont être mes maîtres sur le chemin de la vie. Ils vont me dire ce qui est bon. C'est Christiane, que vous connaissez, qui m'a prêté un livre que depuis j'ai partagé, que j'aime bien les livres comme ça que je découvre et qui deviennent un petit peu des livres que je transmets. Elle m'a prêté un livre qui s'appelle la voix de l'archer de Paulo Coelho. C'est un livre qui utilise l'image d'un archer au Japon. Et un jeune homme dans un village cherche des modèles et il est très frustré de ne pas avoir dans son petit village des modèles de grands maîtres qui pourraient l'enseigner. Et notamment, il est passionné par le tir à l'arc au Japon. C'est une véritable philosophie de vie. Et tout à coup, il y a un archer magnifique, fort, superbe, qui arrive dans son petit village et qui dit « Je cherche telle personne pour me confronter à lui. » Le petit garçon dit « Je ne sais même pas. Oui, je le connais, mais ce n'est pas un archer, c'est le menuisier du village. » Et puis cet archer dit « Conduis-moi à lui. » Et là, le petit garçon conduit cet homme vers ce menuisier. Et en fait, l'archer superbe le provoque en duel en disant « On va concourir ensemble pour savoir qui est le meilleur. » Le petit garçon dit « Mais vous n'avez pas provoqué le menuisier du village quand même. » Le menuisier du village, en toute humilité, dit « D'accord. » Et ils font un concours dont ils fixent les règles. Et le menuisier du village remporte haut la main le concours du tir à l'arc sur une seule flèche. Et le petit garçon est étonné, il dit « Mais je ne savais même pas que tu étais un maître. » Et cet homme lui dit « Il y a quelques minutes, tu as affirmé que j'étais un maître. Mais qu'est-ce que c'est qu'un maître ? Je vais te le dire. Ce n'est pas celui qui enseigne quelque chose. C'est celui qui incite le disciple à donner le meilleur de lui-même pour qu'il découvre une connaissance déjà présente en lui au creux de son âme. » Ça, c'est un maître. Et quand je lisais ces phrases, je me disais, mais n'est-ce pas ce que Christ a fait pour nous ? Est-ce qu'il n'est pas un maître qui nous incite à donner le meilleur de nous-mêmes pour découvrir ce qu'il y a déjà de présent en nous, au creux de notre âme, afin de nous faire devenir ce que nous sommes déjà dans la pensée de Dieu de toute éternité. Et est-ce que Yann et Mewen seront des maîtres pour conduire leur enfant afin qu'elle devienne ce que Dieu a déjà déposé en elle ? Est-ce que c'est cela ? J'ai un professeur qui est en face de moi et qui va me dire « Oui, mais il faut quand même leur donner des apprentissages et des connaissances qu'ils n'ont pas. » Certes, il faut des maîtres pour cela. Mais est-ce que ce n'est pas en apportant des connaissances permettre à l'autre de devenir ce qu'il est ? Et il faut de l'humilité pour être un enfant. Il faut de l'humilité pour pouvoir recevoir en toute simplicité de celui qui sait déjà ce que je suis. Est-ce que tu es prêt à vivre cela dans ta vie, à devenir ce que tu es ? C'est à partir de ce constat de l'humilité que tous les commentaires de l'Évangile disent qu'il faut bien se trouver comme qualité essentielle chez l'enfant, cette qualité-là dans chacun des disciples, cette humilité afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la pureté, ce n'est pas des choses qui sont là et qu'on attribue aux qualités de l'enfant, c'est cette simplicité de la foi. Je sais que maman sait ce qui est meilleur pour moi, je sais que papa va me donner ce qui est bon pour moi. Est-ce que j'ai la même attitude vis-à-vis de mon Dieu ? Une deuxième caractéristique, là, il y a 2 ans, elle a grandi, tu ne trouves pas ? Tu ne t'en es pas rendu compte, mais nous, à la voir comme ça, on se dit, depuis 2 ans, elle a quand même grandi. Il y a 2 ans, elle n'était pas comme ça. Non, ce n'est pas vrai, Fanny, tu te confirmes ? Ta petite fille a grandi. D'accord. Ça serait triste si elle était restée au même stade qu'il y a 2 ans. Oui, hein ? Oui, oui. C'est tellement triste. Des enfants de Dieu qui ne grandissent pas. Des enfants de Dieu qui ne sont pas dans cette démarche de croissance. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, « Ainsi, même si votre être extérieur se dégrade, votre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Est-ce que ton être intérieur se renouvelle de jour en jour ? Et j'ai envie de dire, pour être des bons parents, ben, il faut déjà être dans cette démarche de croissance pour permettre à nos enfants de grandir. Vous savez, des enfants qui ne voient pas leurs parents grandir intérieurement, ben, ça ne va pas leur donner envie. On parle de l'injonction sociale que certaines générations peuvent avoir vis-à-vis des autres. Un père qui passerait sa vie devant sa PlayStation, pensez-vous que ses enfants auront envie de travailler s'il n'y a pas à côté la maman qui donne un autre modèle, qui dit, voilà, la vie, c'est aussi grandir, c'est ouvrir des livres, c'est se cultiver, c'est développer des valeurs essentielles intérieures. Des études, il y a quelques années, quelques décennies, ont dit que l'influence des mamans qui travaillent est plus grande que celle des pères. Je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, il y avait cette étude qui disait quand des enfants voient leur maman qui est courageuse, qui est investie, qui, voilà, le lien maternel fait que ça a un impact beaucoup plus fort. Bon, il ne faut pas que ça déresponsabilise les papas, soyons clairs. Mais est-ce que la croissance, c'est aussi permettre à l'enfant de grandir dans la connaissance de Dieu ? Est-ce que je vais l'aider à grandir, à découvrir, à apprendre, à changer ? L'enfant est fondamentalement dans cette dynamique-là. Ça lui est en partie imposé, mais c'est aussi, ça fait partie aussi du cycle de la vie. Est-ce que je suis aussi dans cette logique de croissance, dans mon rapport avec mon Père céleste? Il y a toujours un risque pour un adulte de cesser de se poser des questions, de se contenter de là où il en est spirituellement. C'est toujours risqué. Non pas que nous sommes des requins qui ne peuvent pas vivre si on ne se déplace pas. Hein. Il paraît que si un requin nage pas, il coule et il se noie. Non, c'est pas ça, mais il y a un véritable danger à ne pas grandir, progresser. Quel que soit notre âge, quel que soit notre genre, quoi qu'en pensent certaines personnes dans les églises évangéliques, hommes ou femmes, nous sommes appelés à avancer, à progresser, à grandir, à croître, à ouvrir nos yeux, à vouloir apprendre, à observer, à découvrir les mystères de Dieu. Est-ce que vous avez cette soif-là ? Est-ce que j'ai cette soif-là dans ma vie ? Est-ce que j'ouvre l'Écriture afin que les trésors de Dieu deviennent une réalité dans ma vie ? C'est une véritable question. Non, non, non. Moi, je suis arrivé maintenant. J'attends que le Seigneur vienne m'enlever. J'ai entendu cela dans ma vie. Les croyants, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est ça. Hein, les Thessaloniciens, ils attendaient l'enlèvement. Ils disaient, ça y est, on a tout ce qu'il nous fallait. Maintenant, on attend que le Seigneur nous enlève. C'était il y a 2000 ans. Hein. Depuis, ils sont partis, mais d'une autre manière. Est-ce que j'ai envie de grandir, de laisser le Saint-Esprit me faire découvrir les mystères de Dieu jour après jour ? Chez l'enfant, il y a aussi une simplicité que Jésus souligne. Le royaume de Dieu est à ceux qui sont semblables à ses enfants. Simple. Je te loue, Seigneur, dit-il dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 25, de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux petits-enfants. Il parle là de la simplicité de l'enfance. Qu'est-ce que j'ai pu profiter de la simplicité de mes enfants pour leur faire des blagues ? Je me rappelle que j'ai une nièce qui maintenant est maman de plusieurs enfants. Quand elle est venue à Hennebon, on habitait avec Rémi, Michel, Catherine, Francine, dans une grande propriété, un petit manoir. Et puis, il y avait un chêne. Il devait faire, je ne sais pas moi, 2,50 m, 3, ouais, largement de tronc. Et il était un peu penché. Et ils étaient là. Et je leur dis, mais vous voyez, il est en train de tomber cet arbre. Et je disais à une de mes nièces, ça serait bien que tu appuies sur le tronc pour éviter qu'il penche de trop. Elle est restée un bon quart d'heure appuyée contre le tronc pour soutenir le chêne. Elle s'en rappelle encore. La simplicité. Mais c'est vrai qu'il s'agit d'être comme un enfant, en abandonnant notre raisonnement, en abandonnant notre intelligence, pour croire aux promesses de Dieu. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé. Ah, combien il y a d'hommes et de femmes qui sont uniquement axés sur ce que leur intelligence leur dit. Et si en plus l'intelligence est remplie par Internet, alors on a plein de raisons pour ne pas être comme des enfants. Mais est-ce que la parole de Dieu, je peux y entrer avec l'aide du Saint-Esprit et croire ce que Dieu me dit ? Pour moi, être comme un enfant. Accueillir le royaume de Dieu comme on accueille un enfant. Et accueillir un enfant. Jésus, quand il dit à ses disciples, laissez-les venir à moi, eh bien, il leur dit aussi, d'une certaine manière, qu'ils soient accueillis, parce que ce sont des enfants, c'est précieux. Un enfant, c'est un trésor. On dit que quand une personne âgée meurt en Afrique, on dit une bibliothèque disparaît. C'est vrai. Il y a du respect à avoir pour les plus anciens. Donc, je vous en prie. Mais il y a du respect à accueillir un enfant, parce qu'il y a tout un devenir. Tout un devenir. Si je prends soin de ce qui est là et qui n'est pas encore advenu, si je l'accompagne, alors je peux voir des choses étonnantes. De la même manière que si je cherche à accueillir le royaume de Dieu comme on accueille un enfant, dans ma vie, alors je peux vivre des choses intéressantes, passionnantes, exaltantes. Le psaume 131, qui est un psaume des montées, vous savez, c'est un psaume soit qu'on récitait sur les marches de l'escalier qui menait au temple, soit qu'on récitait pendant qu'on allait à Jérusalem sur les grandes fêtes. Il dit ceci, « Éternel, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends l'Éternel, Israël, maintenant et à jamais. » Est-ce que je suis un enfant comme cela ? Est-ce que je peux lire ce psaume 31 en disant « De tout mon cœur, Seigneur, je ne veux pas être ni fier ni arrogant, rempli de mon savoir, de mes certitudes. Je ne veux pas avoir un regard ambitieux. J'aspire à être ceci, à être cela. » Ça, c'est quelque chose qui m'a, dont j'ai dû à me veiller pendant ma vie. Vous savez, quand on est directeur, qu'est-ce qu'on est flatté par les autres. Et finalement, on finit presque par y prendre plaisir, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est que du vent, pas nécessaire. Est-ce que j'ai un regard ambitieux ? Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Je n'ai pas envie de courir après des chimères, des choses qui me feraient devenir ou penser que, etc. Mais je tiens mon âme égale et silencieuse. J'aime cette expression et cette traduction. Je tiens mon âme égale et silencieuse, c'est-à-dire, voilà. Un peu comme, vous savez, ce temps de la marée qui ne monte pas, qui ne descend pas, étale. Mon âme étale, égale, silencieuse. Comme une âme, comme un enfant contre sa mère. Ouais. Comme un enfant contre sa mère. Voilà. Est-ce que je suis dans cette attitude et cette position ? Est-ce que j'aspire à ce que mon enfant puisse avoir et découvrir cette position-là aussi par rapport à Dieu ? Voilà quelques pensées que j'avais à partager sur ce temps de présentation. Il me disait, on est tous des enfants face à notre Père. On est aussi des enfants terrestres et peut-être que cela peut nous nous aider à vivre des choses différemment, à guérir des choses. On a vécu récemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela, en tant que parent, Francine notamment, une véritable bénédiction par rapport à l'un de nos enfants qui a fait toute une démarche. Ça nous a fait un bien fou. On a été bénis par un de nos enfants. Et je pense que dans le ciel, notre Père attend d'être béni par nous, par notre aller vers lui, en lui disant ce qu'il est pour nous. Est-ce que vous pensez que vous pouvez bénir Dieu en tant que Père par les paroles que vous allez pouvoir lui dire de ce qu'il est pour vous ? Amen. Amen. Je vais demander à Yann